Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, 1642, un complot célèbre à l'époque de Louis XIII et de Richelieu, la conjuration de Saint-Marc. On ne saurait faire un plus grand crime contre les intérêts publics qu'en se rendant indulgent envers ceux qui les violent. En matière de crime d'État, il faut fermer la porte à la pitié. Richelieu. D'histoire. Le 12 septembre 1642 à Lyon, des centaines de curieux étaient venus assister à l'exécution du marquis de Saint-Marc et de son complice, François-Auguste de Thou. Condamnés à mort pour trahison, leur décapitation sur la place des Terreaux fut une véritable boucherie. Le bourreau dut s'y prendre à plusieurs reprises pour que la tête des deux hommes tombe sur l'échafaud. C'est ainsi que se terminait le plus célèbre complot du règne de Louis XIII. À sa tête, un homme de 22 ans, Henri de Saint-Marc. Entré à la cour à l'âge de 15 ans, nommé grand écuyer du roi, il était devenu à la fois le favori de Louis XIII et le rival de son premier ministre, l'homme le plus détesté du royaume, le cardinal de Richelieu.
Le cardinal est une bête malfaisante qu'il faut abattre sans hésiter.
Parfaitement. Quant à moi, je réclame l'honneur de lui porter le premier coup.
Mais ne pourrait-on se débarrasser du cardinal sans recourir à ses fâcheuses extrémités? Qu'en pensez-vous, Saint-Marc?
Il existe un moyen plus sûr pour abattre le cardinal.
Lequel?
Je me fais fort d'obtenir ce disgrâce. Il est peu de choses que le roi me refuse, vous le savez. Dieu sait pourtant qu'il a fort à se plaindre de moi. Pour peu que je me montre aimable, dans une semaine, il n'aura plus rien à me refuser. Je m'en porte garant.
Françoise Hildesheimer, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'était un extrait d'une très célèbre émission d'André Castelot et Alain Decaux à la télévision, La caméra explore le temps. Et cet extrait était tiré donc de La conjuration de Saint-Marc, une conjuration à laquelle vous consacrez vous-même deux chapitres à la fin de votre biographie de Richelieu qui vient d'être publiée chez Flammarion. Alors, c'était une des plus célèbres, c'est sans doute encore une des plus célèbres conspirations de l'histoire, alors qu'il y en a eu beaucoup sous Louis XIII. Pourquoi celle-là? Pourquoi retient-on celle-là? À cause de la personnalité peut-être de Saint-Marc?
Alors, la plus célèbre, assurément, je pense pour tout le XVIIe siècle, sinon pour tout l'Ancien Régime, pour beaucoup de raisons. Je pense que déjà, vous avez souligné la jeunesse des condamnés. Et ces condamnés, ils perdent la vie quasiment par la main de deux vieillards, que sont Louis XIII et Richelieu, sont à la fin de leur vie, qui sont quasiment deux mourants, qui décapitent la jeunesse. C'est un côté symbolique. Et puis ça arrive au terme d'une relation dont on reparlera, assez tumultueuse entre le roi et le ministre, parce que leur cohabitation, si on peut dire, n'a pas été un long fleuve tranquille. Ça arrive à la suite d'une multitude de conjurations, c'est pas la seule.
Oui, parce qu'il faut le rappeler, vous le dites, votre livre d'ailleurs est très long, et là on est simplement à la fin du livre, Françoise Hildesheimer, le règne de Louis XIII et de Richelieu.
Et la vie de Richelieu
plus tard,
n'est qu'une
c'était
suite.
C'était très long. Or, il y a eu des complots tout le temps, des complots organisés par ce qu'on appelait les grands, c'est-à-dire les grands du royaume. Qu'est-ce qu'ils avaient contre Louis XIII ou Richelieu? C'était pas contre la monarchie, bien sûr. C'était contre Richelieu, tous
c'était
ces complots?
Certainement pas contre la monarchie, puisque formellement c'était pour. Je pense que les historiens interprètent ces phénomènes qui s'est produit tout au long de la vie de Richelieu, qui fait que la vie de Richelieu n'est que le miracle d'une perpétuelle survie, puisque tout a échoué. Mais ces complots sont interprétés par les historiens comme la réaction, somme toute normale, pas comme une insubordination en soi, mais comme la réaction au passage à un autre stade de la monarchie, un stade plus moderne, dans lequel le roi se ressaisit et affirme l'exclusivité de la détention de la souveraineté. Souveraineté qu'auparavant, il partageait, notamment avec les grands. Et ça, les grands ne peuvent pas le comprendre et réagissent en fonction de ce que l'historienne Arlette Loana a nommé le devoir de révolte.
Alors les grands, justement, se sont révoltés. Pour n'en citer que deux, les deux qui ont précédé le complot de Saint-Marc, il y a eu en 1632 la révolte du duc de Montmorency, qui sera décapité à Toulouse. Et puis un an avant la conjuration de Saint-Marc, celle du comte de Soissons. Mais derrière toutes ces conspirations, il y a un homme qu'on trouve en permanence, c'est le propre frère du roi, c'est Gaston d'Orléans.
C'est Gaston, l'éternel troublion, et celui que l'on ne peut pas châtier, parce que toutes ces conjurations se terminent dans le sang. Oui. Et Gaston s'en sort toujours très bien.
Il est prince de sang, il est le frère de Louis XIII.
Il est prince de sang, ce qui lui permet d'échapper aux peines de sang, et il s'en sort toujours très bien. Au surplus, en général, il vend au sens propre
ses services,
et ouais. Il s'en tire avec un apanage plus grand, ouais. Des gratifications.
Bah, il faut dire quand même, pour dire son importance, c'est que pendant longtemps, il était l'héritier légitime. Tant que Louis XIII n'a pas eu d'enfant avant la naissance de Louis XIV.
Il est jusqu'en 1638, c'est-à-dire très tard dans le règne, puisque je vous rappelle que Louis XIV ne naît que le 5 septembre 1638. Et jusque-là, Gaston est l'héritier. Et ensuite, il reste quand même important, parce que en cas de régence, eh bien, il peut... je vous rappelle que le roi est un mourant...
Alors tous les complots derrière lesquels il se trouve ont échoué, et puis arrive celui de Saint-Marc. Alors il faut rappeler qui est le personnage de Saint-Marc. Je précise aussi que on dit parfois 5 Mars, parce que ça se prononce comme ça, c'est INQ comme le chiffre et Mars comme la planète, mais ça se prononce Saint-Marc, Françoise Éril de Scheimer. Alors Saint-Marc, c'est pas n'importe qui. Lui, il est grand écuyer du roi. D'ailleurs, on l'appelle Monsieur le Grand, pour cette raison-là. Et il est arrivé grâce à Richelieu à la cour, et il devient le favori du roi.
C'est, j'allais dire, la démonstration peut-être du manque de psychologie de Richelieu, qui s'est toujours soucié de contrôler très étroitement les amitiés du roi. Alors il y a eu quelques épisodes d'amitié féminine qui ont assez mal tourné, et Richelieu s'est dit, bien pourquoi pas un jeune et beau cavalier que je vais contrôler, puisque son père, qui avait été surintendant des finances, était un fidèle de Richelieu.
Le père de Saint-Marc.
Le père de Saint-Marc, défia. Et donc, Richelieu a persuadé très laborieusement, parce que Saint-Marc, au début, a refusé. Et c'est Richelieu, il était quand même difficile de refuser quelque chose au tout-puissant cardinal, qui a fini par le placer auprès du roi. Alors, ça s'est fait petit à petit, en mars 1638, le voilà grand maître de la garde-robe, et puis en fin 1639, le voilà grand écuyer, Monsieur le Grand.
Alors ce Monsieur le Grand, ce Saint-Marc, justement, ben, ses ambitions ne s'arrêtent pas là, il a de plus hautes ambitions, qu'il dévoile d'ailleurs à Richelieu.
Pourquoi voulez-vous être duc ?
Pour épouser la princesse Marie de Gonzague.
Et parce que la faveur vous a fait devenir grand écuyer, vous oubliez le tout petit rang qu'occupe votre famille.
Ma mère approuve ce mariage.
Si vous dites vrai, votre mère est folle.
Je vous interdis.
Vous n'avez rien à m'interdire. Mais voilà qui achève de m'ouvrir les yeux sur votre compte. Je me suis trompé sur vous. Dès la première heure. Je me suis trompé sur vos capacités quand vous êtes un incapable. Sur vos mérites quand vous n'en possédez aucun. Sur votre courage, quand devant Monsieur de Saint-Marc, vous êtes mon erreur vivante. Je vous ai pas accordé votre congé.
êtes sur France Inter 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, la conjuration de Saint-Marc et cette gavotte royale de Philidor Lainé par le Concert des Nations dirigé par Jordi Savall, une musique donc de l'époque de Louis XIII, Françoise Hildesheimer. Et on a entendu avant cette engueulade entre Saint-Marc et son protecteur ou son ex-protecteur Richelieu, qui lui dit « Vous m'avez déçu ». Il ne croit pas si bien dire parce que là, les deux hommes ont vraiment rompu.
Effectivement, c'est pour reprendre ce qui a été dit, Saint-Marc, c'est l'erreur de Richelieu. Mmh. Alors les deux hommes, ils ont rompu, mais en revanche, si je puis dire, la greffe a parfaitement prise du côté du roi. Mmh. Le roi s'est entiché de Saint-Marc, qui est devenu son favori au sens plein du terme.
Mais qu'est-ce que ça veut dire justement, François Deschamer? Est-ce qu'il s'agit de rapports homosexuels ou d'une amitié
Alors, liquidons tout de suite la question des rapports homosexuels. Bon, il est certain que Louis XIII avait un goût assez modéré pour les femmes. D'un autre côté, c'était un dévot, donc on voit tous les interdits qui pouvaient s'exercer sur sa conscience hyper scrupuleuse, c'était un hyper scrupuleux. Qu'il ait eu des tendances homosexuelles, bon, ça paraît certain. Pour le reste, on n'a que deux allusions dues à cette mauvaise langue de Talmant, on peut pas aller au-delà.
Parce qu'il engueulait quand même, il faisait des scènes de jalousie, Louis XIII. Quand Saint-Marc partait à Paris, quand il allait faire la fête à Paris, loin de Louis XIII, Louis XIII lui faisait des scènes de jalousie.
C'est tout le problème de la personnalité du roi. Louis XIII, c'est une personnalité absolument fascinante, parce que c'est un roi, au plein sens du terme. C'est pas parce qu'il est coincé entre Henri IV et Louis XIV qu'il faut le déprécier. C'est quelqu'un qui avait une pleine conscience de sa majesté, qui a pris toutes les décisions, et les bonnes décisions, on peut dire, a posteriori, mais qui avait également conscience de sa faiblesse psychologique et de son caractère qui, notamment en matière affective, était resté complètement infantile.
Il avait besoin, au fond, d'un confident, en quelque sorte.
C'était le rôle de quelqu'un aimé. Je rappelle que de lui, un de ses favoris antérieurs, il avait dit, je l'aimais parce qu'il m'aimait. On voit cette quête d'affection.
Il fait entrer Saint-Marc au Conseil, c'est-à-dire au gouvernement. Nous sommes à une époque, il faut le rappeler, très dure pour la France. Elle est en guerre contre l'Espagne déjà depuis quelques années.
D'ailleurs, il fait entrer Saint-Marc au Conseil. Richelieu l'en expulse aussi, tout aussi violemment qu'il lui refusait un mariage glorieux. Mais effectivement, on est dans une période très dure qui ne peut se comprendre que si on remonte un peu au-delà, en sachant que depuis 1635, la France, sous la conduite de Louis XIII et de Richelieu, est entrée en guerre, et en guerre contre l'Espagne. C'est ce qu'on appelle la guerre ouverte, puisque cela fait suite à des années où la France finançait, sous forme de guerre couverte, les ennemis de l'Espagne. Et on est entré dans une guerre très dure, qui a très mal commencé. Très mal commencé pour Richelieu, puisque 1636, c'est l'année de Corbie, où les Espagnols et les impériaux ont été aux portes de Paris. Et on s'en est sauvé qu'au prix d'un effort national dans lequel... C'est le roi qui a pris le pas sur Richelieu. Mmh. Richelieu a été au bord de craquer, de la panique. C'est Louis XIII qui a tenu, ça je crois qu'il faut le dire, pour rééquilibrer la vision des deux personnages.
D'ailleurs, comment dirais-je, Richelieu, effectivement, c'est quand même aussi l'artisan de cette guerre qui tourne mal au début. Le rival donc de Saint-Marc, qui justement est suffisamment proche du roi pour proposer à Louis XIII de se débarrasser du cardinal.
Chasser un homme comme le cardinal n'est pas une petite affaire.
Si vous ne voulez vous résoudre à le chasser, il existe une bien meilleure solution. Débarrassez-vous de lui, comme vous l'avez fait du maréchal d'Ancre.
J'y ai pensé quelquefois.
La voie la plus sûre et la plus courte est de le faire assassiner lorsqu'il viendra dans votre appartement, où ses gardes n'entrent point.
Oui, mais il est prêtre et cardinal. Tu seras excommunié.
Pourvu que j'ai l'aveu de votre majesté, je ne me mets pas en peine. Alors, sire ?
J'y penserai, Saint-Marc. J'y penserai.
Ah, votre majesté s'en souviendra. Elle n'a pas dit non.
Mais je n'ai pas dit oui.
Alors, ce dialogue entre Saint-Marc et Louis XIII, il a
beaucoup de choses authentiques. Il a été écrit par Alain Decaux pour La Caméra Explore le Temps. Mais il y a une chose authentique, je l'ai retrouvée dans votre livre, Françoise Hildesheimer, c'est que quand Saint-Marc propose quand même à Louis XIII de se débarrasser physiquement de Richelieu, Louis XIII, dont Richelieu est le Premier ministre depuis 20 ans hein, déjà, Louis XIII ne dit pas non. Et il dit, oh, mais il est prêtre, je serai excommunié. Ça c'est vrai, c'est authentique, mais on sent bien que Louis XIII n'a plus du tout les mêmes rapports avec Richelieu, il est sur le point au fond de le lâcher.
Exactement. Alors il y a à la fois dans ce dialogue, je dirais, le silence du roi et tous ses scrupules devant la condamnation de l'Église qui s'attacherait à cela. Et de même que Louis XIII n'avait pas formellement donné l'ordre d'assassiner Concini.
C'était le maréchal d'Ancre,
le favori de sa mère, qui l'a fait assassiner. Là aussi, il ne va pas donner l'ordre. Et dans toutes ces histoires, j'allais dire ces romans qui sont un peu des romans de cap et d'épée, si on les prend du point de vue des faits, on a des ratés. Louis XIII ne donne pas l'ordre à Amiens quand, dans un précédent complot, Gaston et ses complices ont le cardinal sous la main et peuvent l'assassiner. Eh bien, Gaston ne se résout pas à donner l'ordre. Et on a toute une série de rebondissements qui reposent...
Parce que Louis XIII, on attribue à Louis XIII cette phrase, vous l'écrivez vous-même, « Je voudrais qu'il y ait un parti contre lui », dit Louis XIII en parlant de Richelieu. Alors, ce parti se forme, justement, autour de Saint-Marc, hein, qui veut se débarrasser, qui rêve, évidemment, d'être Premier ministre, sûrement, à la place de Richelieu. Alors, on retrouve, évidemment, Gaston d'Orléans, le duc de Bouillon, quelques grands noms, François-Auguste de Tout, qui est l'adjoint de Saint-Marc, le marquis de Fontrailles. On dit même que la reine elle-même, Anne d'Autriche, aurait été dans le coup.
Alors, je vous rappelle que la reine est une Espagnole,
oui.
Qu'elle a été précédemment oui. convaincue d'intelligence avec l'ennemi, et que la reine, depuis qu'elle est mère, a un gros problème, c'est, on dirait, j'allais dire en français juridique moderne, la garde de ses enfants. Le roi, avec qui elle ne s'entend pas très bien, a ce point de pression sur elle, peut faire pression sur elle en lui enlevant ses enfants. Et elle est obligée de composer avec Richelieu. Donc il va y avoir, durant toutes ces dernières années, un jeu entre la reine qui déteste le cardinal, mais doit en faire son avocat, le cardinal qui... en cas de régence, si le roi meurt avant lui aura besoin de la reine, on va avoir une sorte de rapprochement. De rapprochement dont on ne sait pas jusqu'où il est allé.
Alors justement, parlons des conjurés maintenant. Saint-Marc, alors ces conjurés n'envisagent pas seulement de faire éventuellement tuer Richelieu, mais surtout de s'en prendre à sa politique,
exactement.
À la guerre contre l'Espagne.
Et d'arrêter la guerre.
Ils veulent qu'elle s'arrête et c'est là qu'est rédigé un traité secret avec l'Espagne. Hein.
C'est leur moyen de pression sur la conscience du roi, de dire arrêtons la ruine du royaume, arrêtons cette politique qui est aussi la ruine de l'âme très chrétienne du roi. Donc, faisons la paix avec l'Espagne. Et le roi consent, plus ou moins cette fois et pour la première fois, à ce que les conjurés envoient des envoyés tâter le terrain avec l'Espagne pour essayer de savoir, en gros, si Richelieu, en lui disant que quand même il suivait des négociations de paix, vous savez que le grand principe de Richelieu, c'était de négocier sans cesse, disait vrai ou pas. Pour la première fois, le roi consent à ce qu'on tourne.
Mais il était au courant de ce traité qui a été élaboré par Saint-Marc, par les conjurés, parce qu'il était secret. Et puis en plus, on est en guerre contre l'Espagne, donc c'est de la trahison.
Les conjurés envoient, avec l'aval plus ou moins explicite du roi, le Fontrailles en Espagne, mais il a à ses trousses les émissaires du cardinal. Donc le cardinal, lui aussi, n'ignore rien de ce qui se trame. Le problème, c'est que le cardinal est très malade, ne peut pas être éloigné du pouvoir, donc on assiège Perpignan, donc on est loin de la capitale, tout ça c'est plein de rebondissements. Et au moment où le cardinal fuit, une fois de plus, il s'enfuit, il estime qu'il est vaincu, qu'il n'a plus qu'à fuir vers les possessions pontificales. Il est cardinal, c'est là qu'il va tout naturellement chercher un refuge. Il est en train de fuir et lui arrive providentiellement entre les mains le fameux traité. Alors ça, on ne sait pas comment. On a pensé que c'était la reine. Peut-être pas, elle avait obtenu la garde de ses enfants auparavant. Mais peut-être voulait-elle rester dans les bons termes avec le cardinal, peut-être était-ce des espions du cardinal, peut-être était-ce des conditions purement fortuites, on ne sait pas, mais toujours est-il que, miracle, le voilà en possession du traité, qu'il peut immédiatement mettre devant le roi qui n'avait pas, certainement pas réalisé que son favori irait jusqu'au crime de trahison.
Et c'est effectivement Mazarin, je crois, quelqu'un qui deviendra célèbre, qui transmet ce traité secret à Louis XIII à Perpignan.
Monsieur de Saint-Mars a traité avec l'Espagne.
Mais pourquoi monsieur de Saint-Mars me trahirait-il? Je le comble de bienfaits, il est l'homme le plus envié de ma cour.
Votre Majesté doit montrer la plus grande fermeté dans cette affaire qui est une affaire d'État. Le cardinal supplie votre Majesté de faire procéder sans délai à l'interrogatoire de messieurs les ducs d'Orléans.
Oui, Mazarin.
Et d'ordonner l'arrestation de monsieur de Bouillon.
Oui, Mazarin.
De monsieur de Toux.
Oui, Mazarin.
Et de monsieur de Saint-Mars.
Non. Mazarin, pas monsieur de Saint-Mars.
Je voudrais attirer l'attention de votre Majesté sur cet alinéa. Monsieur de Bouillon et monsieur de Saint-Mars recevront 40 000 écus des pensions chacun.
Mazarin, je voudrais être mort. Emmenez-le loin d'ici. Faites vite. Je ne le reverrai de ma vie.
Et Louis XIII va donc abandonner son favori, Saint-Mars, au sort que lui réserve Richelieu.
La mort dans l'âme.
Oui. Et justement, je ne comprends pas bien. Il était au courant de ces tractations ou pas? Est-ce que ce traité pouvait être considéré comme un acte de trahison dans la mesure où Louis XIII lui-même encourageait un traité avec l'Espagne?
Louis XIII avait encouragé la prise de contact avec l'Espagne, mais pas un traité avec l'ennemi. Le traité, pour lui, était très clairement un acte de trahison. Et c'est là qu'il a, comme on vient très bien de le voir d'ailleurs, il a douloureusement ouvert les yeux.
Et surtout et que ce traité contenait également des clauses financières. Ça, on donnait de l'argent à Gaston d'Orléans et même à Saint-Mars, on l'a entendu.
De toute façon, c'était de règle dans les conventions qu'on avait avec l'Espagne depuis toutes les guerres civiles, les guerres de religion. L'Espagne ne s'était jamais privée d'intervenir dans nos affaires.
Il n'est pas très courageux quand même, Louis XIII. Il abandonne son favori, celui qu'il aimait le plus, entre les mains de Richelieu, qui lui réserve évidemment un sort funeste. Françoise Deschamers.
Je dirais le pauvre.
Il est entre les mains de Mazarin, c'est-à-dire à l'époque, Mazarin qui est l'adjoint, avant de devenir son successeur, l'adjoint de Richelieu.
Et qu'il aura malgré tout la lucidité politique. Je crois qu'il faut dissocier, j'allais dire, ces côtés affectifs où le roi est assez lamentable, et le côté politique où il suit malgré tout la ligne que Richelieu va maintenant lui réimposer, parce que ces derniers mois vont être une espèce de course de la part
Richelieu
de Richelieu.
Richelieu mourra 3 mois plus tard et Louis XIII 9 mois après.
Il survivra quelques mois.
Alors, il y a quand même, ils étaient plusieurs comploteurs. On dit le complot de Saint-Mars. Saint-Mars était un des comploteurs.
C'est extraordinaire. Le bouc émissaire.
Le bouc émissaire, parce que Gaston d'Orléans, par exemple, on l'interroge. Alors lui, il se déballonne complètement. Il accable Saint-Mars, mais il aura rien. Il est prince de sang, il est intouchable.
Toute sa vie, il a rejoué cet épisode.
Alors, en revanche, le procès de Saint-Mars et de son adjoint de Toux va avoir lieu. Ça se déroulera à Lyon, en septembre.
C'est encore un de ces procès extraordinaire dans lesquels Richelieu, j'allais dire, excellait, montrait, j'allais dire, à la face du monde combien il était impitoyable. Il y avait un côté propagande dans ces procès. Donc effectivement, Saint-Mars est arrêté, donc on est en 1642, il est arrêté le 13 juin, il est exécuté le 12 septembre. Ça n'a pas traîné. Le procès s'est fait à Lyon. Alors on a tous un peu dans les yeux l'image de Richelieu remontant le Rhône dans sa luxueuse barque, suivi des condamnés. Richelieu dans sa barque litière mourant, et puis la jeunesse condamnée qui le suit. Et donc ça ne va pas traîner. Richelieu, alors là, retrouve j'allais dire, une vitalité formidable pour suivre toutes les péripéties du procès. Et c'est là que lui-même découvre quelque chose qui est pour lui comme un coup mortel, c'est que malgré tout, il découvre que le roi a été prêt de le lâcher.
Oui.
Et ça, c'est
après
20 pour lui,
ans
c'est dramatique.
De pouvoir partager.
Et après, quand même, toute une vie passée à essayer de s'assurer de la confiance du roi.
Alors, on retient aussi de ce procès, ou plutôt de la condamnation et de l'exécution de Saint-Marc et de tout, l'abomination qui était à ce moment-là les exécutions capitales, parce qu'elles se faisaient à l'épée, hein, il n'y avait pas de guillotine encore. Et alors, on dit que le bourreau a mis deux fois, il a donné un premier coup d'épée sur la nuque de Saint-Marc, la tête ne s'est pas détachée, et ensuite il a scié le cou pour que la tête, c'était abominable.
Le cas n'était pas unique, dans une précédente conspiration, celle de Chalet, ça avait également été affreux. La famille du condamné avait mis la main sur le bourreau. On avait fait appel à un artisan qui, à coup de Loire, avait dû détacher la tête. Enfin, on était, ces spectacles étaient le sommet de l'horreur. Mais ils avaient aussi un côté destiné à frapper de terreur ceux qui pourraient être tentés de reprendre le flambeau.
Oui, il était impitoyable quand même, Richelieu, cette biographie le montre bien. Enfin, impitoyable, disons, dur, brutal. Je citais tout à l'heure cette formule de Richelieu. En matière de crime d'État, il faut fermer la porte à la pitié. Au nom de quoi, au fond? Parce que c'est en même temps quelqu'un qui a été l'artisan, au fond, de la monarchie qui deviendra absolue avec Louis XIV.
D'un crime d'État. Il y a des crimes qui mettent en cause le salut de l'État, et c'est cette période où se dégage justement cette nouveauté de l'idée d'un État, une chose totalement abstraite, qu'on a pu comparer à un monstre froid, un État qui est même supérieur à la personne du roi qu'il incarne, et qui a ses raisons, la fameuse raison d'État, qui s'impose à tout le monde, au prix même de la vie des plus grands.
Et pourtant, on les a épargnés pour beaucoup d'entre eux. Je rappelle donc, vous le dites vous-même, Françoise Hildesheimer, Richelieu est mort 3 mois après Saint-Marc, après l'exécution de Saint-Marc. Louis XIII va lui suivre, et le successeur, qui n'a que 5 ans, Louis XIV, avec sa mère, Anne d'Autriche, bien sûr, avec Mazarin, vont se trouver à nouveau devant les grands. Ce sera la Fronde.
Ce sera la Fronde, et dans une période de plus grande faiblesse du pouvoir royal, parce que là, le roi est mineur.
Merci Françoise Hildesheimer. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'une biographie de Richelieu qui vient de sortir chez Flammarion, un livre passionnant. Vous avez également édité Le Testament politique de Richelieu, édité à la Société de l'Histoire de France. Vous avez pu entendre des extraits de La Conjuration de Saint-Marc, un film de la série La Caméra explore le temps, ça date de 62, hein, et avec des dialogues écrits par Alain Decaux et une réalisation bien sûr de Stelio Lorenzi. Puis vous avez peut-être reconnu Jean-Pierre Marielle, la voix de Jean-Pierre Marielle dans le rôle de Louis XIII. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs, en composant le 3230, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. Je rappelle enfin que notre émission est rediffusée la nuit entre 3h et 3h30. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Olivier Riotor et Éric Gérard. Documentation Virginie Bleu-Cléné, Claire Tesser et Cédric Joseph Julien. Une réalisation de Anne Comilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un grand témoin, plusieurs fois ministre du général de Gaulle, signataire...